Lundi 19 avril 2021, il vient d'être 17h à Niamey. Bienvenue au journal en français du studio Kalangou, au micro Rafika Taher. À la une, au moins 19 morts, c'est le bilan d'une attaque perpétrée samedi dans le village de Gaïgourou, région de Tillabéri, par des hommes armés non identifiés. À suivre dans ce journal le témoignage de ressortissants de la localité. La situation sécuritaire et le contentieux post-électoral au Niger au centre d'une déclaration de l'opposition rendue publique par CAP 2021 samedi. Les détails dans ce journal. Un magazine, Goje Maimouna Gazibo, explique les sanctions encourues par une personne qui participe à une manifestation ou une réunion avec une arme. Samedi 17 avril, vers 17h, des hommes armés non identifiés ont attaqué le village de Gaïgourou de la commune de Dessa, région de Tillabéri. Selon un ressortissant du village, joint au téléphone par le studio Kalangou, environ 19 personnes ont perdu la vie. Des propos recueillis au téléphone par Nafisa Adamou Sirfou.
En entrant dans le village, les bandits ont pris trois rues. La rue Bosso, la rue qui mène à Anzourou et celle qui va vers Dessa qu'ils ont d'ailleurs coupée. Ils sont venus à bord de plusieurs motos vers 17h. Et dès leur entrée, ils tirent sans sommation sur tous ceux qu'ils rencontrent. Certains ont pu fuir, mais d'autres ont choisi de rester. Ils ont ainsi tué 19 personnes, dont des jeunes. Dans le passé, ils ont déjà tué deux personnes à Gaïgourou. Hier, le ministre de la Défense, celui de l'Intérieur, le gouverneur et le préfet étaient sur les lieux. Ils nous ont promis de prendre les mesures, mais nous, on ne parle plus de sécurité dans cette zone. Nous en remettons à Dieu pour nous sauver.
Direction le Tchad où l'armée nationale et les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde s'affrontent depuis quelques jours dans le nord du pays. Selon Seydik Abba, journaliste spécialiste des questions sécuritaires, le conflit en cours au Tchad peut impacter la lutte contre le terrorisme dans le lit du lac Tchad et même dans la zone des trois frontières où sont déployés des soldats tchadiens. Seydik Abba au téléphone avec Tarnan Foudey Ahmed.
Ce qui va se passer et ce qui est en train de se passer, c'est que les unités qui sont déployés dans le lit du lac et qui assurent la stabilité face aux groupes armés djihadistes, principalement Boko Haram, vont être redéployés pour faire face à la rébellion. Elles vont libérer un territoire qui va être occupé par les éléments de Boko Haram et ça, c'est très inquiétant. C'est de nature à aggraver la situation dans le lit du lac Tchad parce qu'aujourd'hui, la priorité du régime va être de freiner l'avancée de la rébellion qui envisage de venir sur N'Djamena.
Est-ce que cette situation va encore changer les visages du conflit armé en cours dans la zone des trois frontières où un contingent tchadien a pris position depuis quelques mois?
Tout va dépendre de la situation au plan militaire. Si la situation venait à se dégrader de l'autre côté, il est à craindre que l'ensemble des forces, y compris celles qui sont dans la zone des trois frontières, soient rappelées et qui fragiliseraient la lutte contre le terrorisme dans la zone des trois frontières.
La coalition de l'opposition CAP 2021, ACC, FRC et Alliés a rendu publique une déclaration hier dimanche 18 avril 2021 sur la situation sécuritaire et le contentieux post-électoral né de l'élection présidentielle du 21 février dernier. Retour sur quelques points de cette déclaration avec Kadaouré Kane Habibou, membre de cette coalition. Il est aussi joint au téléphone par Tarnal Foudey Ahmed.
La coalition soutenant la candidature du président élu Mahamat Ousmane a rendu publique une déclaration sur la situation sécuritaire, l'incendie des classes payotes qui a occasionné la mort de 20 écoliers du préscolaire et du scolaire. Et puis également la persistance du contentieux électoral parce que nous tenons toujours à la victoire du président Ousmane. Donc nous avons des requêtes qui sont encore pendante au niveau de la Cour constitutionnelle. Et donc, il était assez important à ce que nous faisions quand même un rappel d'opinion nationale et internationale. Dans la déclaration, on a également parlé des détenus qui sont arbitrairement arrêtés, à savoir Mahamadou, le général Tchanga, le président Lokoko. Donc, nous exigeons leur libération.
Prendre le souhour, c'est de manger et de boire avant l'aube pour chaque jeûneur. Souvent, certains jeûneurs négligent le souhour, soit par indifférence ou par manque de temps de sommeil. Oustaz Haladou Yahaya, prédicateur, explique l'importance du souhour et les bienfaits qui se rattachent à celui-ci. Il est joint au téléphone par Hawa Ousmane.
Le souhour revêt une grande importance
pour le jeûneur que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déjà parlé en disant prenez le secours car il est béni. Donc quand on dit bénédiction, ça veut dire barakat ou consistance dans le bien ou consistance divine dans une chose ou sa pérennisation. Le secours permet aux fidèles, conformément au dire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de bénéficier des prières de Allah et de ses anges. D'après Ibn Omar, Allah soit satisfait de lui, a dit Allah fait miséricorde à ceux qui prennent le repas du secours et les anges implorent le pardon d'Allah pour eux.
Le jeûneur qui souffre de diabète a les mêmes besoins énergétiques et hydriques qu'une personne saine pour le bon fonctionnement de son organisme. Cependant, le diabétique ne doit en aucun cas consommer du sucre lorsqu'il est à jeun, explique le pharmacien nutritionniste Dr Harakoy Mohamed. Voici des propos recueillis par Rahila Toussoumana.
Les aliments sucrés ne sont pas du tout proscrits chez le diabétique. Cependant, il y a juste quelques règles à respecter. À la rupture, il est déconseillé et même contre-indiqué de consommer un aliment sucré, sauf si celui-ci il est en état d'hypoglycémie extrême. Mais s'il n'a pas d'hypoglycémie, c'est toujours conseillé pour lui de prendre des aliments non sucrés. Comme exemple de rupture, il peut consommer de la tisane non sucrée, du lait éventuellement demi-écrémé ou écrémé. Ensuite, de l'eau ou consommer de l'eau en première position. Ensuite, consommer des aliments riches en fibres comme le moringa, la salade. Après, il pourra pratiquement consommer sa date, ses fruits. Et pareil pour le sahur, il doit commencer avec un aliment riche en fibres. Consommer son plat de résistance, ensuite consommer son fruit.
Plus de 128%, c'est le taux des agents de santé qui ont reçu leur première dose du vaccin contre la COVID-19 au Niger. C'est selon le ministre de la Santé publique qui précise que l'opération se déroule normalement à Niamey. Pour Dr Iliassou Menassara, la quantité de vaccins réceptionnés le mercredi dernier par le Premier ministre va servir à la vaccination dans les autres régions. Et les gens au téléphone par Mohamed Maman.
À la date d'aujourd'hui, nous n'avons observé aucune réaction, en tout cas particulière, ce que nous appelons les MAPI, manifestations adverses post-vaccinales. À titre d'exemple, quand vous prenez au niveau de la région de Niamey, la cible des agents de santé prévus, en tout cas, nous avons vacciné au-delà de 100%. On est à près de 128%. Pratiquement tous les agents de santé qui ont été recensés ou dont le calcul de la cible a été fait. En tout cas, nous avons dépassé les chiffres même qui a été prévu. Et nous invitons les gens à venir se faire vacciner parce qu'aujourd'hui, c'est la seule arme pour se protéger contre cette maladie. Si vous avez constaté, le premier ministre chef du gouvernement a réceptionné un autre lot de vaccins, soit environ 355 000 doses, et ce vaccin va être acheminé à l'intérieur du pays.
Le rond-point situé derrière la grande mosquée de Niamey porte désormais le nom de Munkaila Sakwara et Cheikh Cheibou Ali pour le rond-point situé au quartier Abidjan de Niamey depuis samedi dernier. Comme Cheikh Cheibou Ali, El Hadj Munkaila Yakuba, plus connu sous le nom de Munkaila Sakwara, a contribué de son vivant à la promotion des grandes valeurs par son travail et son abnégation pour la ville de Niamey. Moussa Namaylaya, fonctionnaire à la retraite et habitant du quartier Abidjan de Niamey, témoigne au micro de Mokhtar Hamadou.
Munkaila Sakwara, c'est un grand commerçant de son vrai nom, Munkaila Yakuba. Il avait créé le cinéma Zabarkan. Ensuite, d'un commun d'accord avec la famille Moussa Gouro, ils ont créé le cinéma Sony et ils ont créé la société de cinéma appelée Sonexi. Et avec l'avènement du régime d'exception militaire de Kounché, il fut même le président de Samaria. Dans le temps, il n'y a pas aussi plus riche que lui au quartier Abidjan parmi les commerçants. C'est pourquoi il a été renommé. J'avais travaillé à la banque Bédérène. Quand il passait là-bas, il passe à mon bureau. Ils ont tellement aidé le gouvernement nigérian, surtout au régime d'exception. Ils ont fait des dispensaires, ils ont donné des ambulances, ils ont construit pas mal de classes. Presque toutes les écoles là, c'est eux qui ont construit ça à travers la Samaria.
À Baleyara de la région de Tillabéri, le collège d'enseignement technique manque cruellement de matériel d'infrastructure. L'école compte une centaine d'élèves, dont une quarantaine de filles, réparties dans 5 filières comprenant la menuiserie et la mécanique. Maman Bako, directeur du collège d'enseignement technique de Baleyara, explique au micro de Hassan Moumouni.
Les enfants fréquentent bien cette école, car cette année nous avons eu 115 inscrits, dont 44 filles. Nous avons 5 filières ici au CET enseignées par des spécialistes, à savoir la mécanique auto, la menuiserie métallique, l'économie familiale, l'agriculture et l'électricité bâtiment. Nous avons 10 enseignants, 5 femmes et 5 hommes. Nous sommes surtout confrontés au manque de matériel, car tu peux t'arranger pour avoir les outils de travail. Mais comment enseigner la menuiserie à un élève sans lui faire couper une planche? Et ce qui nous dérange le plus, c'est le fait de partager le centre avec le centre CFM qui a son propre foyer. Nous sommes vraiment à l'étroit. En plus, nous sommes situés en plein centre-ville et sans clôture. Les passants distraient donc beaucoup les élèves en classe.
Place à la partie magazine de cette édition. Toute personne ou groupe de personnes qui participent à une manifestation ou une réunion publique portant une arme ou un engin dangereux pour la santé est passible de sanctions pénales. Également, les violences par voie de fait, des séquestrations de personnes et ou l'incitation de mineurs de moins de 18 ans à la dégradation des biens, meubles et immeubles publics ou privés sont des actes punissables. La magistrate Goje Maimouna Gazibo, présidente de l'association chronique juridique, explique au micro de Balkis Ahamidou.
Quelles sont les sanctions prévues pour une ou plusieurs personnes qui participent à une manifestation avec des armes?
Le fait pour une ou plusieurs personnes de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme apparente ou cachée ou d'un engin dangereux pour la sécurité publique est passible d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans. Une amende de 50 000 à 300 000. Normalement, quand vous partez à une manifestation pacifique, vous n'êtes pas autorisé à être porteur d'armes, donc vous n'avez pas le droit d'aller avec la crimogène ou bien d'aller avec des armes à la manifestation. Si vous êtes pris, vous pouvez aller en prison pour 3 ans et payer une amende allant jusqu'à 300 000. Et la juridiction saisie doit prononcer la confiscation de l'arme et de l'engin dangereux au profit de l'État.
Quelles sont les peines prévues pour ceux qui participent à une manifestation en vue de commettre ou d'inciter les autres à poser des actes de violence ou de destruction des biens publics ou privés?
Lorsque des violences, voire de fait des séquestrations de personnes ou dégradations des biens meubles ou immeubles publics ou privés sont perpétrés durant ou à l'occasion d'une manifestation, les organisateurs et les instigateurs de cette manifestation sont passibles de poursuites en tant que complices et pourraient écoper d'une peine d'emprisonnement de 1 à 4 ans de prison et une amende de 50 000 à 300 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des poursuites pouvant être engagées contre les auteurs de ces actes. Chaque fois qu'il y a eu débordement et qu'il y a eu d'autres infractions à l'occasion de la tenue d'une manifestation illégale, vous allez être poursuivi non seulement pour la tenue de la manifestation, mais pour toutes les autres infractions qui ont été commises à l'occasion de la tenue de la manifestation sont également passibles d'une peine d'emprisonnement de 1 à 4 ans et une amende de 50 000 à 300 000. Tous ceux qui vont s'introduire dans une manifestation ou un rassemblement en vue de commettre ou d'inciter d'autres participants à commettre des violences, voire de fait, destruction ou dégradation des biens. Et ces peines seront portées au double si les instigateurs et organisateurs du rassemblement incitent des mineurs de moins de 18 ans à l'accomplissement des actes de violence, voire de fait sur les personnes et de destruction et dégradation de biens. Vous tenez une manifestation et vous incitez des jeunes étudiants, des jeunes collégiens, des enfants de la rue à faire des dégradations des biens, peu importe que ce soit des biens publics et privés. Ou privés, vous êtes passible de poursuites pénales et vous pouvez vous retrouver en prison pour 4 ans avec une amende de 300 000. Mieux, si les enfants sont des mineurs, vous allez vous retrouver avec 8 ans de prison et 600 000 francs d'amende.
C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Restez à l'écoute. Dans un instant, Michel Dédji vous présentera le forum sur l'importance de l'enseignement des comptes de l'éducation des enfants au Niger. Bonne réception.